5h à Paris et vous êtes bien sur Radio France Internationale. 30 minutes d'actualité. Clotilde Dumay avec vous pour le journal. Bonjour Clotilde.
Bonjour Edouard, bonjour à tous. À la une, ces témoignages recueillis par RFI de Syriens alaouites qui racontent les exactions commises dans l'ouest de la Syrie. 745 civils seraient morts en 3 jours d'affrontements entre les forces de sécurité et des combattants fidèles à l'ancien président Bachar al-Assad. Dans l'actualité également, Moscou qui revendique des avancées dans la région russe de Koursk face aux forces ukrainiennes. Les conservateurs et les sociaux-démocrates qui ont conclu un accord de principe en Allemagne pour la formation d'un futur gouvernement. Et puis le ministre français de la Justice en visite au Maroc, alors que la coopération judiciaire entre Paris et Rabat s'est renforcée, par exemple avec la récente extradition vers la France du narcotrafiquant Félix Bingui. L'ordre a été donné aux forces de sécurité de ramener l'ordre à l'ouest de la Syrie face aux combattants fidèles à l'ancien président de Bachar al-Assad. En 3 jours, les affrontements ont fait un peu plus de 1000 morts, dont 745 civils alaouites, selon un dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cette minorité dont est issu le clan Assad, RFI a pu obtenir des témoignages de Syriens alaouites habitant la côte nord-ouest du pays, où ont donc été commises la plupart des exactions. Témoignages recueillis par Oriane Verdier et Nicolas Falaise.
Ce sont des témoignages sonores qui nous ont été transmis par des habitants de la province de Latakié. Les voix ont été modifiées. Les enregistrements décrivent des scènes de violence. Un homme raconte que son fils a été égorgé et que les habitants ont été chassés de leurs habitations. Ce même témoin assure qu'il n'a aucun lien avec l'armée de l'ancien régime syrien, celui de Bachar al-Assad. Autre témoignage, celui de cette femme qui évoque des cadavres dans les rues et ajoute que les auteurs des massacres empêchent les survivants de récupérer ses dépouilles. Plusieurs de ses interlocuteurs assurent que les auteurs des violences ne parlaient pas avec l'accent syrien, ce qui attesterait de la présence de combattants étrangers dans les rangs des auteurs de ces exactions. Les enregistrements obtenus par RFI sont ponctués d'appels au secours adressés à la communauté internationale ou aux Nations Unies. Ces témoignages s'ajoutent à des vidéos et photos en provenance des mêmes secteurs et qui montrent des scènes d'exécution ainsi que des cadavres.
Les églises syriennes dénoncent ces massacres de civils innocents et appellent à la fin immédiate de ces actes horribles. La France, elle, condamne avec la plus grande fermeté ces exactions. Et puis toujours au Proche-Orient, Israël va envoyer une délégation demain au Qatar pour tenter de faire avancer la négociation sur la suite de la trêve dans la bande de Gaza. Le Hamas, de son côté, évoque des signaux positifs après une rencontre avec les médiateurs égyptiens. 3 villages repris dans la région russe de Koursk, Moscou revend une avancée face aux troupes ukrainiennes en difficulté sur le front. Et alors que les États-Unis ont décidé cette semaine de suspendre la livraison d'équipements militaires et de munitions et le partage de renseignements avec Kiev, une politique américaine dénoncée par les Européens au moment où la Russie, Romain Le Maresquier, intensifie ses frappes.
Les missiles russes continuent de s'abattre sans relâche sur l'Ukraine, apportant toujours plus de morts et de destruction. Encore une fois, Poutine montre qu'il n'a aucun intérêt pour la paix. Kaya Kallas, la chef de la diplomatie européenne, est claire dans son message posté ce samedi matin sur les réseaux sociaux. Pour elle, les manœuvres entre Washington et Moscou ne mènent nulle part, même si elle ne préfère pas faire la relation entre la multiplication des frappes russes et la fin du partage des renseignements américains avec Kiev. Tout l'inverse de Donald Tusk, le premier ministre polonais, qui n'hésite pas à parler de l'échec de la politique d'apaisement développée par Washington, qui selon lui mène à plus de bombes, plus d'agressions et plus de victimes en Ukraine. C'est ce qui arrive quand on apaise les barbares, explique-t-il sur le réseau social X. Nous devons renforcer notre soutien militaire, sinon davantage de civils ukrainiens paieront le prix fort, explique quant à elle Kaya Kallas, quelques jours après un Conseil européen extraordinaire à Bruxelles qui a permis de jeter les bases pour un réarmement de l'Europe. Sans ce soutien, l'Ukraine ne pourra pas résister bien longtemps à l'agresseur. Selon certains experts militaires, l'armée ukrainienne dispose de stocks suffisants pour lutter encore 5 à 6 mois, mais face à l'intensification des frappes russes, ce laps de temps pourrait bien être fortement réduit, préviennent ces experts.
Et les conséquences des décisions américaines pour l'Ukraine, on va y revenir après le journal dans la chronique Défense. Cette avancée des troupes russes intervient en tout cas au moment où les discussions se poursuivent pour entamer d'éventuelles négociations sur une fin de la guerre. Une délégation ukrainienne composée notamment de ministres va rencontrer une équipe américaine mardi en Arabie Saoudite. En attendant, la France va mobiliser près de 200 millions d'euros pour aider l'Ukraine sur le plan militaire grâce aux intérêts des avoirs russes gelés. C'est dans ce contexte que les Allemands tentent de former un nouveau gouvernement. Les conservateurs du futur chancelier Friedrich Merz et les sociaux-démocrates ont annoncé un accord de principe pour une coalition. Et en attendant le début des négociations plus détaillées la semaine prochaine, ils sont a priori d'accord pour lever le frein à l'endettement concernant les dépenses pour la défense, pour les faire grimper à 100 milliards d'euros par an. Un changement de stratégie historique en Allemagne, salué par Charles Viplos, professeur honoraire à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève.
C'est évident, la situation géopolitique mondiale est devenue totalement catastrophique. C'est un bon signe de la part de Merz. Il a fini par accepter de remettre en cause une vache sacrée allemande. Oui, les taux d'intérêt à 10 ans ont déjà augmenté un petit peu, mais ça reste quand même un des taux les plus bas au monde. L'Allemagne, avec une dette de l'ordre de 60%, n'aura aucun mal à emprunter et laisser sa dette grimper à 80% ou plus. Et oui, je suis optimiste. L'opinion publique allemande est très attachée à la stabilité budgétaire depuis les catastrophes qu'ils ont connues dans les années 1920. Donc il n'y aura pas de mal à retourner à la discipline budgétaire quand le travail aura été fait.
Et puis autre avancée dans cet accord de principe pour une coalition, cette fois-ci sur l'immigration, le SPD a finalement accepté une proposition controversée des conservateurs concernant un refoulement aux frontières des étrangers sans papier, y compris des demandeurs d'asile. Des centaines de milliers de manifestants dans le monde à l'occasion hier de la Journée internationale pour les droits des femmes. À Paris, Berlin, Madrid ou encore Mexico, les slogans dénonçaient notamment les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes et la montée des discours masculinistes. Le ministre français de la Justice en visite ce dimanche au Maroc, alors que la coopération judiciaire entre Paris et Rabat est au beau fixe. Gérald Darmanin va justement rencontrer son homologue sur place, les précisions de François Hume Ferkataji.
Signe supplémentaire du réchauffement diplomatique entre la France et le Royaume du Maroc, le ministre de la Justice Gérald Darmanin va rencontrer son homologue à Rabat, Abdelatif Wahbi. Les deux hommes devraient évoquer ensemble les questions de lutte contre le terrorisme et contre le crime organisé dans un contexte de renforcement de la coopération judiciaire entre les deux pays. Ces dernières semaines ont été marquées par des succès à cet égard. À la fin du mois dernier, deux hommes soupçonnés d'être les complices du narcotrafiquant Mohamed Amra ont été interpellés à Marrakech sur demande de la France. Ils auraient participé à mettre sur pied l'opération qui a mené à l'évasion de Mohamed Amra et qui a coûté la vie à deux agents pénitentiaires français au mois de mai dernier. Dans la même veine, en janvier dernier, celui que Gérald Darmanin considère comme l'un des plus gros narcotrafiquants de France, le dénommé Félix Bingui, dit le chat, chef présumé du clan Yoda, a été extradé vers la France 10 mois après son arrestation au Maroc. Le sujet de la délivrance des laissez-passer consulaires, documents permettant à la France d'expulser les immigrés illégaux ne disposant pas de passeport, pourrait aussi être abordé. Au mois d'octobre dernier, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait annoncé à Rabat qu'un accord avait été trouvé entre la France et le Maroc pour, je cite, « raccourcir les délais d'expulsion des personnes sous OQTF ». François Mferkataji, Casablanca, RFI.
C'est leur 40e campagne en France. Les Restos du Cœur ont lancé ce week-end leur grande collecte annuelle avec des bénévoles présents dans les supermarchés pour récolter des denrées alimentaires et des dons pour fournir des repas aux plus démunis. Et cette année, l'une des priorités, c'est de venir en aide aux enfants de moins de 3 ans qui sont de plus en plus nombreux à avoir besoin d'aide. Reportage de Vincent Danilo.
Bonjour madame, c'est la collecte pour les Restos du Cœur.
Merci
à vous.
Petits pots, couches ou encore lait infantile, les bénévoles sensibilisent les donateurs à ne pas oublier les produits pour les plus petits. Romy Jean, bénévole depuis 10 ans, constate que l'accès à ces articles devient un véritable défi.
Malheureusement, ce sont des produits qui coûtent très cher, qui sont très onéreux et les parents qui sont en grand nombre sont en difficulté et ont du mal à accéder à ce type de produit.
Face à cette situation, la solidarité s'organise. Certains, même très jeunes, prennent conscience de ces besoins et veulent contribuer à leur manière. C'est le cas de Maxime, 12 ans, qui a décidé d'apporter son aide.
Moi, c'est parce que j'ai un petit frère. Du coup, je me rends compte qu'il y a des bébés tout ça, qui ont besoin de choses. Pour qu'ils soient bien éduqués, il faut bien le nourrir, il faut bien le loger et tout ça.
Pour Mélanie, maman elle aussi, impossible de rester indifférente à la détresse des parents en difficulté.
C'est difficile, hein, nous on a des enfants aussi, s'imaginer des enfants dans la précarité, pas pouvoir offrir à ses propres enfants ce dont ils ont besoin, c'est dur. Pour ça on essaye de participer à notre échelle.
L'année dernière, l'association est venue en aide à 128 000 bébés, soit 10% des bénéficiaires.
Le reportage de Vincent Danilo. Au moins 13 morts en Argentine à cause des pluies torrentielles et des inondations qui se sont abattues sur la ville portuaire de Bahía Blanca, à 600 km au sud-ouest de Buenos Aires. 400 mm de pluie en 8 heures, soit l'équivalent de ce qui tombe habituellement en une année. C'est sans précédent, selon le ministre de sécurité de la province. Le gouvernement a débloqué une aide d'urgence de 10 milliards de pesos, un peu plus de 8,5 millions d'euros. En Australie, près de 330 000 foyers sont sans électricité après le passage de la tempête Alfred. Et même si elle a été rétrogradée en dépression tropicale, des arbres ont été déracinés et des lignes électriques renversées. Les fortes pluies font craindre des inondations. En football, nouvelle défaite en Angleterre de Manchester City, 1-0 face à Nottingham Forest, troisième club de la Premier League devant justement les Citizens. Et puis Liverpool a renversé Southampton 3-1 après avoir été mené à la mi-temps. Une victoire donc avant le match retour contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le PSG qui s'est également rassuré hier après une large victoire 4-1 contre Rennes. En Ligue 1, toujours Marseille a perdu 1-0 face à Lens. Et puis en tennis, Novak Djokovic éliminé d'entrée au Masters 1000 d'Indian Wells en Californie. Le double tenant du titre, en revanche, Carlos Alcaraz, s'est lui facilement imposé face au Français Quentin Alice.
Clotilde Dumais.
Il est 5h11 à Paris, une heure de moins en temps universel. On reste ensemble encore pour une vingtaine de minutes. Dans un instant, reportage en Cisjordanie occupée où l'offensive israélienne et les nombreux checkpoints compliquent la vie des femmes enceintes et met parfois en péril leur vie et celle de leur bébé. On reviendra ensuite sur cette décision de Washington cette semaine de mettre en pause le partage de renseignements américains avec l'Ukraine. Décision qui a des conséquences pour Kiev dans la guerre face à la Russie. À suivre également C'est dans ta nature avec Florent Guignard qui revient sur la dure vie du pangolin, ce petit animal avec son dos en écaille, accusé d'avoir été à l'origine de l'épidémie de Covid-19 et qui est surtout victime de braconnage. Et puis la chronique Vivre ailleurs, à la rencontre aujourd'hui d'Amel Swede, partie d'Alger pour vivre en Nouvelle-Écosse au Canada. Mais d'abord donc en Cisjordanie occupée, Israël a lancé en janvier l'offensive Mur de Fer. Et depuis, le quotidien des habitants s'est encore compliqué. C'est particulièrement vrai pour les Palestiniennes. La multiplication des checkpoints est devenue le cauchemar des femmes enceintes. Que ce soit pour le suivi de leur grossesse ou pour l'accouchement, la colonisation et le durcissement sécuritaire menacent directement leur vie et celle de leur bébé. Amira Souilem est allée à la rencontre de ces femmes enceintes et a embarqué avec des médecins qui sillonnent le territoire palestinien dans une clinique mobile. Reportage.
Sourire aux lèvres, Hiba, institutrice d'une trentaine d'années, se remet doucement de ses émotions.
Mon bébé est né à 13h. Je suis arrivée à la maternité à 12h15. J'ai mis plus d'une heure 15 pour arriver ici. Alors qu'en temps normal, le trajet ne dure pas plus de 15 minutes. La route depuis mon village était fermée. Donc on a dû faire un détour par un autre village pour arriver jusqu'à Bethléem. J'ai eu peur de devoir accoucher sur la route.
C'est donc aussi pour ça que vous avez l'air si heureuse ?
C'est quand même mieux.
Face à cette situation qui se complique sur le terrain, la maternité a décidé de lancer une clinique mobile. Comme beaucoup de femmes peinent à venir à eux, les médecins ont décidé d'aller à elles.
Je suis le docteur Wissem Rer, je suis pédiatre.
Et moi, je suis Dana Amro, gynécologue.
Là, on prend la direction d'Al-Rashaïda. Ce sont des localités rurales en périphérie de Bethléem.
L'équipe se prépare à accueillir les premières patientes. La clinique mobile fonctionne grâce à un générateur.
Alors, à l'arrière de la clinique mobile, on trouve la table de consultation. On a aussi un dispositif portatif qui permet de faire des échographies. Là, juste derrière toi, il y a des rideaux. On les tire dès qu'une patiente arrive pour assurer une certaine intimité.
Toute la journée, les consultations vont s'enchaîner.
Montez sur la table et découvrez votre ventre. Alors ça, c'est le bruit du bébé.
Est-ce que vous voyez son sexe ?
C'est un petit garçon.
Tout va bien pour cette patiente. L'accouchement est prévu dans un mois. Les femmes affluent. Parmi elles, une jeune maman angoissée qui porte dans ses bras un nourrisson. L'enfant a 10 jours, il a de la fièvre, il est pâle. Sa situation inquiète le docteur Wissem Khir, qui hausse le ton envers la villageoise.
Le bébé ne prend pas de poids et il a de la fièvre. Il faut qu'on le surveille. J'aimerais que tu viennes avec lui dans 2 jours à l'hôpital. Tu vas pouvoir venir ?
Ça va être compliqué à cause des transports.
Alors que l'opération Mur de fer se durcit en Cisjordanie occupée, l'équipe médicale de cette clinique mobile dit ne s'être jamais sentie aussi utile. Amira Suilem, de retour de Bethléem, RFI.
Voilà, reportage à réécouter sur le site internet et l'application Pure Radio de RFI. On en parlait dans le journal, c'est l'une des annonces de la semaine aux États-Unis après l'annonce du gel de l'aide militaire américaine en Ukraine. Le chef de la CIA, John Ratcliffe, a mis en pause le partage de renseignements avec Kiev. Le renseignement américain qui était pourtant essentiel à la conduite des opérations sur un champ de bataille particulièrement transparent dans cette guerre entre Russes et Ukrainiens. La fin de l'aide américaine dans ce domaine crucial va donc laisser un vide difficile à combler. Ligne de défense avec Franck Alexandre.
Pour Kiev, le coup est rude. Les forces ukrainiennes ont à la fois perdu l'apport en matériel stratégique, à l'instar de la défense solaire, avec l'emblématique système Patriot, l'artillerie longue portée avec les HIMARS, mais surtout, l'armée ukrainienne a perdu l'accès aux renseignements, véritable clé de leur efficacité, souligne Philippe Gros de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Et notamment, l'appui renseignement qui permet aux forces ukrainiennes de planifier leur feu dans la profondeur. Le renseignement américain a servi directement à appuyer la planification du ciblage effectué par les Ukrainiens dans la profondeur du dispositif russe, ça c'est sûr. Alors attention, les Américains n'ont pas été les seuls à fournir du renseignement, mais la machine du renseignement américaine était telle que dans ce domaine, vous avez un écart avec les productions des autres alliés qui est énorme.
Les frappes ukrainiennes sur les concentrations d'hommes et de matériel ont permis d'entraver les offensives russes. Sans renseignement, les conséquences se feront sentir très rapidement, note Vincent Touré, chercheur à l'Université de Montréal.
L'absence d'une aide américaine de renseignement va surtout être un impact en termes de délai du ciblage. C'est-à-dire qu'avant, au lieu d'avoir une frappe réactive en 5 minutes, on dit dynamique, une frappe dynamique, là, les frappes ukrainiennes risquent d'avoir un temps de latence un peu plus élevé. Mais c'est pas insurmontable parce que les Ukrainiens sont toujours très inventifs, donc ils ont plein de capteurs assez alternatifs pour compenser le manque d'aide américaine.
Et l'alternative pourra venir de Paris, qui a indiqué cette semaine fournir du renseignement aux Ukrainiens. En revanche, il sera plus difficile de compenser le retrait du système de communication américain. Point de Vincent Touré.
Les Ukrainiens dépendent quand même très fortement de Starlink. C'est là encore pas rédhibitoire, mais encore une fois, c'est des latences supplémentaires. L'avantage de Starlink, en fait, c'est que ça vous donne un internet du champ de bataille aisément déployable. Le temps de déploiement, c'est à peu près 100 minutes, même pas. L'objet est très ergonomique, donc en plus, la prise en main est facile. Il existe d'ailleurs d'autres constellations qui sont moins sophistiquées. Le champ de bataille est quand même assez positionnel. Donc même s'il y a une perte de l'internet maintenant, il faut bien imaginer que les Ukrainiens, d'ailleurs comme les Russes, ils ont de la fibre optique, ils ont des fils téléphoniques, ils ont plein d'autres moyens de communication. Mais Starlink, c'était un peu la crème des coms, et ça leur permettait en fait de pallier à beaucoup de problèmes. Ça rend les choses plus complexes pour les Ukrainiens, mais ça va pas être synonyme d'un effondrement du front, quoi.
Pas d'effondrement du front, plutôt un rééquilibrage en faveur de Moscou, car avec le retrait américain du renseignement et des communications, disparaît une partie de l'excellence tactique des forces ukrainiennes. C'est le cadeau de la Maison Blanche au Kremlin.
La chronique Défense, signée Franck Alexandre. La mondialisation du braconnage, on en parle ce dimanche dans C'est dans ta nature, alors que les douanes françaises ont annoncé la semaine dernière la saisie de 11 pangolins morts retrouvés dans les bagages d'une femme en provenance du Cameroun. Le pangolin, rappelez-vous, c'est ce petit mammifère qui a été soupçonné d'être le vecteur du Covid-19. Eh bien, c'est aussi l'une des cibles privilégiées des braconniers. Le trafic des espèces rapporte gros. Explication avec Florent Guignard.
Accusé à tort dans l'affaire du Covid, le pangolin est décidément un héros bien malgré lui. Il est l'animal le plus braconné dans le monde. Charlotte Nittard est porte-parole de l'association Robin des Bois.
C'est le couteau suisse de la médecine traditionnelle chinoise. Le pangolin chinois est considéré commercialement éteint et donc les fournisseurs se sont rabattus sur le continent africain. En Afrique, vous avez beaucoup d'expatriés chinois qui travaillent sur des chantiers qui donc servent de fournisseurs, d'intermédiaires, de rabatteurs. Ce petit mammifère absolument pacifique dont la stratégie obligé de se mettre en boule quand il a un ennemi en face. Donc si vous voulez, pour le braconnier, c'est une affaire en or, il n'y a que le ramasser.
Dans l'atlas du business des espèces menacées, publié par Robin Desbois, de nombreux trafics convergent vers la Chine. Les routes de la soie sont aussi des routes de la mort.
La puissance de lobby et financière de la médecine traditionnelle chinoise, qui veut surtout pas perdre de terrain. Il y a aussi l'aspect signe extérieur de richesse pour un repas entre notables, servir de la viande de tigre ou de la viande de pangolin, ça fait son effet. Et puis le nombre d'habitants, tout simplement.
Ça, c'est le chant recherché du chardonneret élégant, un petit oiseau haut en couleur, bariolé de rouge, jaune et noir, braconné depuis des siècles et quasiment éteint en Afrique du Nord.
Il en reste au Maroc, un hotspot du trafic, et le chardonneret est migrateur, et donc sur toute sa route de migration, il est de plus en plus piégé, à la glu. Forcément, au moins il y en a, plus ça vaut cher. Par exemple, au Maroc, quelques dizaines ou une centaine d'euros, qui après, en France ou en Belgique, peut atteindre pour un couple 500 euros. Donc il y a de l'argent à se faire.
17 milliards d'euros pour toutes les espèces menacées, c'est une économie de guerre souterraine qui s'approprie le bien commun. Charlotte Nitar.
Une guerre avec des morts parmi les rangers ou les défenseurs de l'environnement. Ça finance des groupes terroristes ou des milices clandestines. Tout simplement, la paix est remise en cause par le braconnage.
Les chasseurs nous rattrapent et le piège se ferme sur mes pieds. Les filets tombent sur ma carcasse de singe. Passe-moi le flingue, je retourne la situation. Shotgun sur le braconnier.
Allez, la question de la semaine.
Les animaux penchent-ils à droite ?
C'est vrai qu'on a longtemps pensé que seuls les humains préféraient utiliser une main plutôt qu'une autre, à 90% la droite. Mais chez le kangourou, par exemple, c'est l'inverse. Ils sont à 90% gauchers. Chez les chats, une étude a montré que les mâles étaient plutôt gauchers et les femelles droitières, sans qu'on sache très bien pourquoi. Il est même question de la latéralité chez une espèce de serpent, alors qu'il n'a pas de pattes. Mais le mâle possède deux appareils génitaux et c'est toujours celui de droite qui est le plus gros.
Florent Guignard pour le rendez-vous hebdomadaire de RFI sur la biodiversité. C'est dans ta nature. À réécouter également sur notre site internet et notre application. Allez, le quotidien des expatriés rencontre aujourd'hui avec Amel Swede. Elle est partie d'Alger en 2022 avec sa famille pour vivre en Nouvelle-Écosse, au Canada. Très vite, elle a trouvé un emploi. Elle est aujourd'hui gestionnaire en immigration économique de cette province maritime. Amel Swede, qui était avocate à Alger, accompagne les nouveaux arrivants et les aide à trouver un emploi ou à créer leur entreprise. Corinne Manjou l'a rencontrée au récent forum Destination Canada à Paris.
Je suis moi-même arrivée en Nouvelle-Écosse il n'y a pas très longtemps et j'ai beaucoup d'étoiles dans les yeux quand je vois tous ces candidats porteurs d'espoir et souhaitant s'informer sur leur future vie au Canada.
Vous êtes partie de France pour aller au Canada ?
Non, je suis partie d'Alger. J'ai vécu en Algérie et je suis un pur produit de l'université algérienne. J'ai travaillé pour des entreprises algériennes et internationales et donc ça fait pas très longtemps que je suis au Canada. Je suis arrivée en 2022.
Comment s'est passée votre intégration ?
Ça s'est plutôt bien passé. Alors moi, j'ai eu les services avant arrivée et les services après arrivée. J'ai pris vraiment le temps d'étudier, de regarder les documents qu'ils nous donnaient, les informations. Et puis après mon arrivée, j'ai commencé ma recherche d'emploi quelques jours après mon arrivée. Et puis 2 mois à peu près après mon arrivée, j'ai commencé à travailler au Conseil de développement économique, là où je suis aujourd'hui. J'ai évolué, je suis plus au même poste, heureusement pour moi, et j'en suis très contente, mais voilà.
C'est un projet familial.
Absolument. Avec mon mari, on voulait aller voir ce qu'on valait à l'international et avoir une autre expérience, voir le côté Amérique du Nord. On voulait garder ce côté bilinguisme et ce côté francophone qui nous est cher, tout en vivant avec les valeurs qu'on a et notre identité. Donc le Canada correspondait bien à ça.
En tant que femme musulmane au Canada, qu'est-ce qui vous plaît le plus ?
Moi, je dirais qu'il y a une vraie ouverture d'esprit. On ne se pose pas des questions quand il n'y a pas besoin. La liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Et puis, ça nous fait parfois rire quand on voit d'autres problématiques à l'international devenir des vrais enjeux. Bon, je trouve qu'il fait bon vivre. Par exemple, à Halifax, on a une mosquée qui donne l'appel à la prière et c'est très rare. On a 2 appels à la prière par jour. On a une communauté musulmane. Voilà, on se rencontre dans des cadres comme les écoles, des activités culturelles. Voilà.
Comment se passe votre travail, votre vie dans le monde du travail au Canada ? Vous avez travaillé très rapidement après être arrivé. Comment ça se passe ? J'avoue que j'ai été chanceuse. J'ai travaillé 2 mois après mon arrivée. J'ai commencé par postuler comme tout le monde. Et puis les réponses tardaient à arriver. Et là, pendant ces 2 mois, j'ai eu une vraie période de doute. Et je me disais, waouh, avec mon expérience, avec mes compétences transversales, est-ce que je fais quelque chose de mal? Alors, j'ai été accompagnée à l'époque par une organisation, par des services d'aide à l'emploi, comme je donne aujourd'hui. Puis je posais des questions à ma conseillère et elle me disait, non, non, pas du tout. Tu vas voir, ça va venir. Et puis après ces 2 mois, donc, j'ai eu une entrevue avec des employeurs. Et puis, ils m'ont rappelé 2 jours après l'entrevue pour me dire « tu commences semaine prochaine ». Et j'ai commencé et j'ai continué à recevoir des réponses positives d'autres employeurs. Donc, il faut comprendre que le process prend du temps. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément en train de faire les choses mal. Mais encore une fois, je le répète, il y a des services gratuits d'établissement, d'aide à l'emploi, en entrepreneuriat si vous voulez vous lancer. Il y a une vraie facilité dans ça. Il y a des entreprises, des business qui sont en vente pour des raisons X et il y a de l'accompagnement, des services gratuits qui permettent aux gens qui veulent reprendre ces entreprises-là de le faire correctement. Donc vraiment prenez, c'est mon conseil à tous les nouveaux arrivants, prenez le temps de profiter de ces services gratuits.
Aujourd'hui, vous recevez tous ces jeunes. Comment expliquez-vous cet engouement pour le Canada chaque année ?
Les raisons sont diverses. L'emploi est pour moi le moteur. C'est l'emploi qui va déterminer où est-ce que vous allez vous installer, c'est pas le contraire. L'idée de se dire « j'y vais et je trouve un emploi, peu importe le secteur » est une erreur fondamentale. On doit d'abord viser des secteurs déterminés selon notre expertise, notre expérience et nos compétences, identifier les provinces où il y a du potentiel pour nous et puis commencer à appliquer dans ces secteurs-là et ne pas y aller tout azimut comme ça.
Amel Souïd, interrogé donc par Corinne Mandjou pour la chronique Vivre ailleurs. Il est presque 5h30 à Paris. Un peu de musique pour la fin de cette demi-heure d'information internationale, de la chanson française avec Clou à l'arrière de la voiture dans la playlist de RFI. Arrière de la voiture, le titre de Clou dans la playlist de RFI. Merci à Michael Verne à la réalisation pour cette demi-heure d'information internationale. Restez avec nous dans un instant, l'actualité africaine sur RFI.
J'attends hélas que Musique du monde, Laurence Alloir.
La session live reçoit deux groupes, Djawar et Adrian Soleiman. Djawar est un artiste belgo-tunisien qui propose une folk dream pop chouïa mélancolique. Et de son côté, le flamboyant saxophoniste Adrian Soleiman, vu aux côtés de Lady Gaga pendant les JO, présente son bel jazz club. 8 musiciens en studio, le sol a tremblé.
Musique du monde, Laurence Alloir.
Tout à l'heure, à partir de 20h10 TU.
RFI.